Chapitre 3. La Samaritaine Photinae. Je m'arrête ici. Allez en ville. Achetez tout ce qu'il faut pour le repas. Nous mangerons ici.
Nous y allons tous, dit Jean.
Oui, Jean, c'est bien que vous alliez en groupe.
Et toi, tu restes seul? Ils sont samaritains.
Ce ne seront pas les pires parmi les ennemis du Christ. Allez, allez. Je prie en vous attendant pour vous et pour eux.
Les disciples s'en vont à regret et à trois ou quatre reprises, ils se retournent pour regarder Jésus qui s'est assis sur un muret exposé au soleil près du bas et large bord d'un puits. Un grand puits, presque une citerne, tellement il est large. En été, il doit être ombragé par de grands arbres maintenant dépouillés. On ne voit pas l'eau, mais le terrain, près du puits, montre clairement qu'on a puisé de l'eau à cause des petites mares et des empreintes circulaires laissées par les brocs humides. Jésus s'assied et médite dans son attitude ordinaire, les coudes appuyés sur les genoux et les mains jointes en avant, le corps légèrement incliné et la tête penchée vers la terre. Puis il sent un bon petit soleil qui le réchauffe et il laisse glisser son manteau de dessus sa tête et de ses épaules tout en le gardant encore replié sur sa poitrine. Il lève la tête pour sourire à une bande de moineaux querelleurs qui se disputent une grosse mie de pain perdue par quelques personnes près du puits. Mais les oiseaux s'enfuient à l'arrivée d'une femme qui vient au puits avec une amphore vide qu'elle tient par une anse de la main gauche, pendant que sa main droite écarte avec surprise son voile pour voir quel est l'homme assis là. Jésus sourit à cette femme sur les 35 à 40 ans, grande, aux traits fortement dessinés, mais beau. Elle a, dirions-nous, le type presque espagnol, avec son teint olivâtre, les lèvres très rouges et plutôt épaisses, des yeux démesurément grands et noirs, sous des sourcils très touffus, et les tresses couleur de jais que l'on voit sous le voile léger. Même les formes, qui tendent à l'embonpoint, présentent nettement le type oriental, légèrement adouci, comme celui des femmes arabes. Elle est vêtue d'une étoffe à rayures multicolores, serrée à la ceinture, tendue sur les hanches et la poitrine grassouillette, et retombant ensuite en une sorte de volant ondulant jusqu'à terre. Quantité de bagues et de bracelets aux mains grassouillettes et brunes et aux poignets que l'on voit sous les manches de lin. Au cou, un lourd collier d'où pendent des médailles, je dirais des amulettes, car il y en a de toutes les formes. De pesantes boucles d'oreilles descendent jusqu'au cou et brillent sous le voile. « La paix soit avec toi, femme. Me donnes-tu à boire? J'ai beaucoup marché et j'ai soif. »«
Mais n'es-tu pas juif et tu me demandes à boire? À moi, samaritaine? Qu'est-il donc arrivé? Sommes-nous réhabilités ou est-ce que vous qui êtes humiliés? Sûrement un grand événement est survenu si un juif parle poliment à une samaritaine. Je devrais cependant te dire, je ne te donne rien pour punir en toi toutes les insultes que depuis des siècles les juifs nous adressent.
Tu as bien parlé. Un grand événement est survenu et pour cela beaucoup de choses sont changées et un plus grand nombre changeront. Dieu a fait un grand don au monde et pour cela beaucoup de choses sont changées. Si tu connaissais le don de Dieu et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », peut-être toi-même tu lui aurais demandé à boire et lui t'aurait donné de l'eau vive.
L'eau vive est dans les veines de la terre et ce puits la possède, mais il est à nous.
La femme est railleuse et présomptueuse. L'eau appartient à Dieu, comme la bonté appartient à Dieu, comme la vie appartient à Dieu. Tout appartient à un Dieu unique, femme. Et tous les hommes viennent de Dieu, les Samaritains comme les Juifs. Ce puits n'est-il pas celui de Jacob? Et Jacob n'est-il pas le chef de notre race? Si par la suite une erreur nous a séparés, cela ne change rien
à notre origine.
« Notre erreur, n'est-ce pas ? » demande la femme agressive.
« Ni la vôtre, ni la nôtre. Erreur de quelqu'un qui avait perdu de vue la charité et la justice. Moi, je ne t'attaque pas, et je n'attaque pas ta race. Pourquoi veux-tu être agressive ? »
Tu es le premier juif que j'entends parler ainsi. Les autres...
Mais pour revenir au puits, oui, c'est celui de Jacob, et il a une eau si abondante et si claire que nous, de Sichar, nous la préférons aux autres fontaines. Mais il est très profond.
Tu n'as pas d'amphore, ni d'outre. Comment pourrais-tu donc atteindre pour moi l'eau vive ?
Es-tu plus que Jacob, notre saint patriarche, qui a trouvé cette veine abondante pour lui, ses enfants, ses troupeaux, et nous l'a laissé en souvenir de lui et comme cadeau ?
Tu l'as dit, mais qui boit de cette eau aura encore soif. Moi, au contraire, j'ai une eau telle que celui qui l'aura bu ne sentira plus la soif. Mais elle n'appartient qu'à moi, et je la donnerai à qui me la demande. Et en vérité, je te dis, que celui qui aura de l'eau que je lui donnerai aura toujours en lui la fraîcheur et n'aura plus soif, car mon eau deviendra en lui une source intarissable, éternelle.
Comment ? Je ne comprends pas. Es-tu un mage ? Comment un homme peut-il devenir un puits ? Le chameau boit et fait une provision d'eau dans le creux de son ventre, mais ensuite il la consomme et elle ne lui dure pas toute sa vie. Et tu dis que ton eau dure toute la vie ?
Davantage encore, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. En celui qui la boit, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle et donnera des germes de vie éternelle, car c'est une source de salut.
Donne-moi de cette eau, s'il est vrai que tu la possèdes. Je me fatigue à venir jusqu'ici. Si je l'ai, je n'aurai plus soif et je ne deviendrai jamais malade ni vieille.
Il n'y a que cela qui te fatigue, rien d'autre, et tu n'éprouves pas d'autre besoin que de puiser pour boire, pour ton misérable corps.
Pense-y, il y a quelque chose qui est plus que le corps, c'est l'âme.
Jacob n'a pas seulement donné de l'eau du sol pour lui et pour les siens, mais il s'est préoccupé de se procurer pour lui et de donner la sainteté, l'eau de Dieu.
Vous nous dites païens, vous ? Si c'est vrai ce que vous dites, nous ne pouvons pas être saints.
La femme a perdu son ton impertinent et ironique, et elle est soumise et légèrement confuse.
Même un païen peut être vertueux, et Dieu qui est juste le récompensera pour le bien qu'il aura fait. Ce ne sera pas une récompense parfaite, mais je te le dis, entre un fidèle souillé d'une faute grave et un païen sans faute, Dieu regarde avec moins de rigueur le païen. Et pourquoi, si vous savez être tel, ne venez-vous pas au vrai Dieu ?
Comment t'appelles-tu ?
Fotinaï.
Eh bien, réponds-moi, Fotinaï. Ne souffres-tu pas de ne pouvoir aspirer à la sainteté parce que tu es païenne, comme tu dis, parce que tu es dans les nuées d'une antique erreur ?
Comme moi, je dis.
Oui, que j'en souffre.
Et alors, pourquoi ne vis-tu pas au moins en païenne vertueuse ?
Seigneur !
Oui, peux-tu le nier ? Va appeler ton mari et reviens avec lui.
Je n'ai pas de mari.
La confusion de la femme grandit.
Tu as bien dit. Tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 hommes et maintenant tu as avec toi quelqu'un qui n'est pas ton mari.
Était-ce nécessaire cela ? Même ta religion ne conseille pas l'impureté.
Le décalogue, vous l'avez, vous aussi.
Pourquoi alors, Fotinaï, vis-tu ainsi ? Ne te sens-tu pas lasse d'être la chair de tant d'hommes au lieu d'être l'honnête épouse d'un seul ? N'as-tu pas peur de ta vieillesse quand tu te trouveras seule avec tes souvenirs, avec tes regrets, avec tes peurs ?
Oui, même celle-là. La peur de Dieu et des spectres.